Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons nos études concernant le thème de la guérison. Le titre pour aujourd'hui, c'est une alliance meilleure. Voyez-vous, le plus grand mensonge de Satan, eh bien, il se trouve dans plusieurs places dans les Saintes Écritures et nous prendrons simplement le psaume 107, versets 17 à 20. Il est dit que les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Leur gosier avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa sainte parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. À propos de la guérison divine, je cite souvent une partie du psaume 107, en particulier le verset 20. Il envoya sa sainte parole et les guérit. Pour saisir la signification de ce verset, il est nécessaire d'approfondir le psaume tout entier. N'oubliez pas qu'il parle du peuple d'Israël et de la guérison que Dieu lui offrait. Par exemple, en Exode chapitre 23, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. » Versets 25 et 26 d'Exode chapitre 23. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Dieu appelle les Israélites les insensés au verset 17 du psaume 107. Ils avaient le choix, oh oui, le choix de vivre en harmonie avec Yahvé l'Éternel dans la santé divine, sans aucune maladie, sans un seul malade parmi tout le peuple et dans toute la nation. Ils avaient le choix de vivre dans le repos de Dieu et de jouir de toutes ses bénédictions pour eux-mêmes, leurs champs, leurs troupeaux, leur bétail, etc. Dieu leur avait même promis de remplir le nombre de leurs jours et de les bénir plus que toutes les autres nations de la terre. De quelle bénédiction s'agissait-il? Eh bien, la guérison, de la santé et de la prospérité. Sous l'alliance ancienne, Dieu leur offrait sa protection. Ils étaient effectivement insensés de renoncer à cette bénédiction, n'est-ce pas? Nous aussi, nous jouissons d'une alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Mais en écoutant prêcher certains, j'ai l'impression qu'ils ignorent le verset en hébreu, à savoir que nous avons une alliance meilleure que celle dont jouissait le peuple d'Israël. Dans Hébreux, au chapitre 8, verset 6, il est dit « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure qui est fondée sur de beaucoup meilleures promesses. » Si jamais ils ont lu ce verset, ils ont dû penser qu'on y parlait d'une alliance inférieure à l'ancienne. Nous avons toujours entendu dire à l'Église que Dieu tient à ce que nous n'ayons rien, que nous cheminions dans la vie, malades et affligés, dans la souffrance et dans la détresse, en plus frappés par la pauvreté, travaillant sans relâche, habitant dans la rue de la portion congrue, là-bas, à la fin du bâtiment, juste à côté de l'allée de des Grognons. Oui, eh bien tout cela, ce n'est pas ce que nous désirons, n'est-ce pas? Il n'est pas étonnant que cette image repousse un bon nombre de gens. Une alliance dénuée de guérison et de prospérité représente-t-elle vraiment une alliance meilleure? Non, elle ne comprend même pas les bienfaits de l'ancienne alliance. Or, la nouvelle, elle est supposée d'être une alliance meilleure. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est-il venu pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, d'une alliance inférieure à l'ancienne? Quelle folie! Mais le corps de Christ a permis au diable de le tromper. Satan a aveuglé l'Église à cet égard parce qu'il savait que si celle-ci prospérait, la bonne nouvelle serait propagée dans le monde entier. Par contre, si le diable arrivait à l'induire en erreur et à lui faire croire que les bienfaits de ce monde ne lui étaient pas destinés, l'Église n'aurait plus envie de prêcher l'Évangile. Or, Dieu veut bénir son peuple. Bien que le système de ce monde soit mauvais, les biens terrestres ne le sont pas. En effet, ils appartiennent pas du tout, comme on le croit, à ce monde. Qui les a créés? Qui croyez-vous qui les a créés? Eh bien, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui a créé l'argent, l'or et les animaux sur des milliers de montagnes. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient. Psaume, chapitre 24, verset 1. Dieu l'a donc créé et il l'a donné à Adam, qui lui a commis la haute trahison en remettant ce monde entre les mains de Satan. Bien sûr, Satan ne veut pas que vous le repreniez, et c'est pourquoi il ment aux fidèles qui acceptent ses mensonges. Et les chrétiens se croient humbles en renonçant au bien de ce monde. Que Dieu les bénisse, ils ignorent combien c'est stupide. Ils sont donc d'accord pour estimer que les biens de ce monde sont destinés au diable et à ses cohortes, mais nullement au corps de Christ. Ils conviennent que les fidèles devraient travailler sans relâche dans la pauvreté. Cette image représente-t-elle le Dieu de l'ancienne alliance? Non, absolument pas. A-t-il changé? Non, il est immuable, il ne peut pas changer. La Bible déclare en Jacques chapitre 1, verset 17, qu'il n'y a en lui ni ombre ni variation. Gloire à Dieu! Oui, notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, il est un Dieu d'abondance. Alléluia! Pourquoi le peuple de Dieu serait-il pauvre? Il ne doit pas être pauvre et misérable. Cet enseignement s'est infiltré dans nos pensées au point où nous acceptons difficilement la vérité. Toutefois, si votre cœur bat en harmonie avec celui de Dieu, il rejettera cet enseignement erroné. Quelle est la cause des maladies chez les chrétiens? Les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Je sais que Dieu parle des Juifs dans ce verset, mais cela s'applique également à nous. La plupart des chrétiens sont malades parce qu'ils ignorent leurs droits et leurs privilèges en Christ. Ils ignorent ce qui leur appartient. Lorsqu'ils commencent à se faire une légère idée de ce qui leur appartient, ils ne savent pas en tirer profit. D'autres connaissent la vérité, mais se sont volontairement retirés de la protection qui a été accordée par la nouvelle alliance. Il est essentiel d'examiner ces alliances pour découvrir nos droits et nos privilèges et de partager cette connaissance avec les autres. Certains accepteront cet enseignement et chemineront dans la joie à la lumière de cette révélation. Le peuple d'Israël a été affligé parce qu'il s'est obstiné à faire le mal. Comme nous l'avons déjà constaté, il ne devait pas mourir par suite de maladie. Dieu avait conclu l'alliance ancienne, et ceci avec son peuple, et lui avait montré la bonne voie. Donc, remercions le Seigneur pour sa miséricorde. La Bible déclare-t-elle peut-être, puis dans leur détresse, ils invoquèrent le nom du Seigneur qui leur dit « Bravo, je vous l'avais bien dit, vous n'avez que ce que vous méritez, mauvaise bande de rétrogrades dépravés. Vous avez toujours refusé d'écouter mes avertissements. » Dieu a-t-il vraiment dit cela? Non et non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas non plus l'image que la Bible nous dépeint de notre Père Céleste. Gloire à Dieu. N'en êtes-vous pas heureux, chers amis? Il est le Dieu de tous les hommes, mais il est mon Père, il est ton Père. La Bible dit, et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa sainte parole, et les guérit et les délivra de leur infection. Versets 19 et 20. Le verset suivant, il commence par « qu'il se célèbre » ou plutôt « qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance ». Je répète, « qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance. C'est important d'entendre cela. La bienveillance, dans quel domaine? Voilà une question. Eh bien, dans le domaine de la guérison. Il a envoyé sa sainte parole et il les a guéris. Oui, c'est vrai, voyez-vous. C'est donc important de nous rappeler de cela. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles qui sont en faveur des humains. Alors, cela ressemble, me semble-t-il, à Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Oui, là, dans le Nouveau Testament que nous venons de citer, comment Dieu, ce même Dieu, à moins d'Esprit Saint et de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Soulignons que faisant le bien et la bienveillance sont donc mentionnés dans la Bible à propos de la guérison divine. Par le passé, nous avons limité la bienveillance de Dieu au pardon de nos péchés. J'en remercie le Seigneur. Mais si vous ne soulignez que cela, on croira que la bonté de Dieu s'arrête là. Méditez donc la bonté de Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi bon aujourd'hui. Dieu est bon. Fermez donc les yeux et déclarez à haute voix « Dieu est un Dieu bon ». Certains prédicateurs disent « Mais il ne faut pas oublier, je me suis demandé, et encore, Dieu a-t-il aussi un côté mauvais peut-être ? Dieu est-il un Dieu méchant ? On ne sait jamais. » C'était donc l'impression que certains m'ont donnée autrefois. Si Dieu n'est pas bon, quelle sorte de Dieu est-il? Dieu est bon, et je crois qu'il est entièrement bon à 100%. En outre, la guérison divine est une bonne chose. Je le sais parce que j'étais malade plusieurs années de ma vie. J'ai donc connu la maladie aussi bien que la bonne santé. Et je vous assure que la santé est de loin préférable. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Répétez à haute voix, Dieu veut que je sois en bonne santé. Voyez-vous, si seulement les malades le répétaient plusieurs fois, pourquoi pas une centaine de fois, et ils finiraient par le comprendre dans leur esprit et par connaître la volonté de Dieu à cet égard-là. Selon les dires de certains, on croirait que Dieu veut que nous soyons malades. Cette seule pensée suffit à provoquer la révolte dans mon fort intérieur. Voyez-vous, l'esprit a des raisons que la raison ne connaît pas. Une fois né de nouveau, votre esprit, votre être intérieur, possède la vie et la nature de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Si c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, pourquoi voulez-vous guérir? Pourquoi subir une intervention chirurgicale à l'hôpital si c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade? Vous n'agirez pas selon sa volonté. Pourquoi prendre un comprimé d'aspirine si Dieu veut vraiment que vous souffriez? Pourquoi ne pas accepter vos maux de tête si c'est tellement la volonté de Dieu que vous ayez mal terrible dans la tête et voire peut-être même dans tout le corps? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu à votre égard? Les médecins croient que la bonne santé et la volonté de Dieu à notre égard. Sinon quoi? Sinon, il travaillerait contre le Seigneur. Dieu veut que vous soyez en bonne santé et Dieu veut que je sois en bonne santé. Qu'il célèbre donc l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Ces merveilles sont liées à la guérison divine. Notez Saint Jean chapitre 14, versets 10 à 12. Il peut arriver que j'oublie une annotation biblique, car je suis que un simple humain, et ne m'en veuillez pas si cela arrive. Pour l'instant, veuillez s'il vous plaît noter Saint Jean chapitre 14, versets 10 à 12. Le verset 10 dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Verset 11 « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Verset 12 en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Il est libre à vous de croire et de penser que cela est une invention, ce que je viens de lire, ou de plutôt de vous dire. Mais certainement pas, vérifiez dans vos Bibles. Donc, vous pouvez penser que Dieu s'est trompé. Or, dans ces trois versets, Jésus-Christ parle des œuvres, et rappelez-vous ces œuvres en revenant au psaume 107, versets 20 et 21, « Il envoya sa sainte parole, et les guérit, et les délivra de leur infection. » Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et ses merveilles en faveur des humains. Une partie de ces merveilles a-t-elle été éliminée? Se borne-t-elle seulement au salut? Moi, je ne le pense pas. Dieu merci. Voyez-vous, la Bible, elle dit autre chose. Ces merveilles concernent également la guérison divine. Jésus-Christ y faisait allusion dans Saint Jean chapitre 14 lorsqu'il a dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais ». Quelle œuvre faisait-il ? Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Si vous lisez attentivement les quatre évangiles, vous verrez que Jésus-Christ passait 75% de son temps à exercer son ministère auprès des malades en les guérissant. Quand certains prédicateurs m'ont dit « La guérison ne jouait qu'un rôle secondaire dans le ministère de Jésus » et dans celui de ses disciples, ils n'ont pas prêté attention. Mais j'ai continué mon ministère auprès des malades, malgré ce qu'ils disent. La guérison ne constitue pas une activité secondaire, mais c'est un ministère de première importance. Dieu ne fait pas de travail secondaire. Sa bonté et ses merveilles n'ont pas changé. Il est immuable. Le psaume 107, verset 22, il dit ceci, « Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. » Alors, de quelle œuvre le psalmiste parle-t-il ? Il parle des merveilles mentionnées dans le verset précédent. Il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leur infection. De toute évidence, les Israélites étaient malades parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut lisez et notez le verset 11 du psaume 107. Il s'était donc retiré de la protection de l'ancienne alliance, et les insensés, par leur conduite criminelle et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Donc Dieu voulait-il vraiment qu'ils soient affligés à ce point-là? Je ne le pense pas. Non, pas du tout. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'un iota. Je crois, moi, qu'il est toujours aussi plein de bonté aujourd'hui et qu'il fait toujours les mêmes œuvres. Je le sais par expérience. C'est à cela qu'on reconnaît la maturité. Voilà son plan. Il n'a pas été accompli dans sa totalité parce que les fidèles l'ignorent. Ils ne savent pas comment coopérer avec Dieu. Dès que vous commencez à prêcher sur cette partie du plan de Dieu, eh bien, presque tous sont prêts à vous attaquer. Des gens merveilleux, des amis intimes, des sauvés et même remplis de l'Esprit Saint qui parlent même en langue. Oh, disent-ils, cet homme exagère. Alors, voulez-vous dire que la maladie fait partie du plan de Dieu ou pas? A-t-il projeté que le peuple d'Israël tombe vraiment malade? En parcourant cette écriture, il me semble que selon son plan, les Israélites n'auraient pas dû tomber malades. Je sais qu'ils ont effectivement été malades, mais cela ne faisait pas partie de son plan. Après tout, les Israélites n'étaient-ils pas les fils de Dieu? Ils étaient ses serviteurs. Toutefois, voyez-vous, sous cette alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses, eh bien nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » S'il ne voulait pas que ses serviteurs soient malades, pourquoi l'aurait-il voulu pour ses fils? Je vous pose la question, puisque dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes pas seulement ses serviteurs, mais nous sommes également ses fils, co-héritiers avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Son plan pour ses serviteurs prévoyait « J'écarterai la maladie du milieu de toi, je remplirai le nombre de tes jours. » Si tel était son plan pour ses serviteurs, alors ses projets étaient-ils beaucoup inférieurs pour ses fils que nous sommes aujourd'hui? Aime-t-il moins ses fils et ses filles que ses serviteurs et ses servantes? Non, non, non. Dieu merci. Je crois que le plan du Père stipule qu'aucun croyant ne soit jamais malade, qu'il remplisse le nombre de ses jours sur cette terre et qu'il s'endorme rassuré. Je crois, en outre, qu'il n'est pas de la volonté de mon Père que nous souffrions d'un cancer ou d'autres terribles maladies redoutables qui causent tellement de souffrances et d'angoisses. Bien entendu, si vous prêchez ces faits, on va vous critiquer. On vous accusera de faire partie d'une secte dangereuse. C'est ahurissant cela. On vous qualifie de secte dangereuse parce que vous croyez à la Bible telle qu'elle est écrite. des chrétiens même vous en accuseront, eh bien, qu'ils persistent, car moi, je crois, et je continuerai de croire ce qui est écrit. Certains diront, Dieu utilise la maladie et l'infirmité pour nous enseigner de bonnes choses. Utilisa-t-il la maladie et l'infirmité pour enseigner le peuple d'Israël? Je vous pose la question. Absolument pas. Il a donné sa sainte parole aux Israélites et il a dit, marchez selon ma parole et vous ne serez pas malades. J'ôterai la maladie du milieu de vous, je vous bénirai plus que toutes les autres nations de la terre et je vous ferai parvenir à un âge avancé. Si vous revenez en arrière au 28e chapitre de Deutéronome, là vous verrez que Dieu énuméra les bénédictions qui appartiendraient aux Israélites s'ils étaient obéissants, ainsi que les malédictions qui les frapperaient s'ils n'obéissaient pas du tout à ses commandements. Bien sûr, vous direz que ça, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est plus valable. Dieu ne les enseigna pas par le moyen de maladies et d'infirmités. C'est là un raisonnement purement humain. Ça, c'est le cerveau, c'est la tête de linotte des théologiens qui, eux, essayent d'interpréter une vérité biblique selon sa propre lumière. Ils aperçoivent qu'un homme de bien, prédicateur de la bonne nouvelle, est atteint d'un cancer qu'il souffre, souffre et souffre encore, et finit même par mourir. Oui, je suis aussi désolé que eux, et croyez-moi, c'est vrai, mais je m'obstine à croire que ce n'était pas forcément le plan de Dieu ou sa volonté d'enseigner ce prédicateur de cette façon-là. Le peuple d'Israël est tombé malade par manque de respect pour les ordonnances de Dieu, parce qu'il pécha contre la sainte parole de Dieu. Bien que je parle des Juifs, le principe est le même en ce qui nous concerne à l'heure actuelle. Bien sûr qu'il y a des saintes femmes et d'hommes qui sont morts de maladie, je le sais moi-même, j'en connaissais, mais je ne pense pas que ce soit dû à un manque d'amour de la part du Seigneur pour eux. Je pense qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours, et moi j'avoue aussi qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre quand, par exemple, une sœur chrétienne qui est fidèle ou un frère fidèle meurt d'un cancer, eh bien, j'ai aussi de la peine. Ça me fait de la peine et je suis triste, car je n'arrive pas toujours à tout comprendre. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas continuer de croire ce qui est écrit, parce qu'alors on pourra arracher toutes les pages qui ne nous conviennent pas de la Bible et nous aurons peut-être une petite brochure qui va nous rester dans les mains. Remarquez bien que tant que le peuple d'Israël respectait l'Alliance, il ne tombait pas malade. Et c'est quand les Israélites prêchèrent quand les Israélites ont commencé à commettre des péchés, qu'ils ont été frappés de maladies. Toutefois, ils conservaient le droit de se tourner à n'importe quel moment vers Yahvé l'Éternel pour recevoir le pardon et la guérison. Et cela est valable également pour nous aujourd'hui. Nous jouissons d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. Et si nous respectons cette alliance, les principes de l'ancienne alliance s'appliqueront-ils aussi à nous maintenant? Eh bien, moi, je continue de le croire. La Bible dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Saint Jean chapitre 13, verset 34. Quelle est cette directive nouvelle? L'ancienne alliance contenait 10 commandements, mais sous la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper à outrance. Dès que nous faisons cette déclaration, on nous pose immédiatement la question suivante. Voulez-vous dire qu'il n'est plus nécessaire d'obéir aux 10 commandements? Patientons un instant, chers amis, et notons bien ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je ne dis pas qu'il faut abolir quoi que ce soit, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous marchez dans l'amour, vous n'allez pas désobéir. Il me semble que vous n'allez pas désobéir au commandement destiné à mettre un frein au péché. Par exemple, vous n'avez plus besoin d'un commandement écrit qui déclare « Tu ne commettras pas de vol ». Si vous aimez les autres, vous n'allez pas leur dérober leurs biens. Ou « Tu ne commettras pas l'adultère ». Si vous aimez votre voisin et sa femme, vous n'allez pas tout faire pour séduire sa femme et peut-être même commettre le pire. Mais comment allez-vous parvenir à aimer les autres de l'amour de Dieu? Dieu vous donne son amour. N'est-ce pas bien meilleur et merveilleux? Il n'est guère étonnant que nous jouissions d'une meilleure alliance. Dieu nous donne son amour pour nous mettre à même de respecter l'alliance. La Bible dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Romains chapitre 5, verset 5. Si vous êtes né de nouveau, l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur et dans votre esprit. Laissez donc cet amour vous dominer. Veuillez, s'il vous plaît, écouter le témoignage d'un pasteur. Voici ce qu'il dit. Un jeune couple avait une fille de 3 ans souffrant d'épilepsie. Il avait amené cette fille chez le plus grand spécialiste et après l'avoir fait passer au scanner et fait subir tous les autres examens, le spécialiste a déclaré que c'était le cas le plus alarmant qu'il avait jamais vu dans le cours de sa vie. Les parents s'efforçaient de croire que Dieu guérirait leur petite fille. Et lors de notre première rencontre, nous conseillâmes la mère concernant un problème relatif à ses proches. Or, un jour, il nous téléphone depuis un motel où nous étions descendus également. Et j'étais en train de me raser avant d'aller à l'église quand j'entendis ma femme dire « Il ne se déplace jamais à moins que le Seigneur ne le lui dise. » C'est donc le témoignage de ce pasteur, vous l'avez compris. Nous recevons effectivement tellement d'appels qu'il nous serait impossible d'y donner suite à tous, sinon on serait obligé d'y consacrer le jour et la nuit. Si le Seigneur dit « va », ce qui arrive rarement, eh bien, j'y vais, a dit ce pasteur. Sinon, je reste sur place. Or, cette fois-là, l'Esprit de Dieu lui a dit, eh bien, va. Et donc, je sortis la tête de la porte. Voilà ce que je voulais dire. Or, je le répète, parce que j'ai donc là un peu estropié le mot. Donc, cette fois-ci, voici ce que continue de dire ce pasteur. Il a sorti la tête de la porte de la salle de bain et il a interrogé sa femme. « C'est de la part de qui ?» Et elle lui a répondu « Oh, c'est des amis que nous connaissons. » Je supposais que le Seigneur voulait que je prie pour cette petite fille. Mais en achevant ma toilette, l'Esprit de Dieu a parlé à mon esprit en disant « Ne prie pas pour l'enfant maintenant, ne lui impose pas les mains non plus, ne lui fais pas l'onction d'huile non plus. Eh bien, dis simplement à sa mère. » Et là, écoutez bien ce que ce pasteur continue de dire. Cela peut aider un bon nombre d'entre nous. Dis simplement à sa mère, « J'ai déclaré au peuple d'Israël, si vous obéissez à mes commandements et respectez toutes mes lois, je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. J'écarterai la maladie du milieu de vous et je vous donnerai une vie longue et pleine. » Alors, si vous obéissez à mes commandements d'amour, et que vous cheminez selon mes prescriptions d'amour, alors j'écarterai la maladie du milieu de vous et je remplirai le nombre de vos jours. Dites donc à Satan, « Satan, je chemine dans l'amour. Lâche ton emprise sur mon enfant maintenant même. » Voilà ce que ce pasteur a donc expliqué à la mère de cet enfant. Et je lui transmis le message du Seigneur. Elle s'en empara comme un chien qui se jette sur un os. Et à peine avais-je cessé de parler qu'elle frappa du pied et déclara avec audace, « Satan, je chemine dans l'amour. Lâche ton emprise sur mon enfant. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Écoutez la suite de ce témoignage de ce pasteur. En un clin d'œil, les crises d'épilepsie de l'enfant ont totalement cessé. On demandera sans doute, et si elle n'avait pas obéi, son enfant souffrirait toujours d'épilepsie. Oui, je suis convaincu qu'il s'agit là d'une vérité cachée au corps de Christ. Il faut, voyez-vous, que nous comprenions dans notre esprit, pas uniquement dans notre intelligence, que nous jouissons d'une alliance bien meilleure. Cette nouvelle alliance est bien meilleure que l'ancienne. Et si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire et que nous marchons selon ses commandements d'amour, il écartera la maladie du milieu de nous et il remplira le nombre de nos jours. Je sais par expérience que si vous voulez jouir de la santé divine, vous devez marcher dans l'amour. Il n'est pas possible de garder rancune si vous voulez vous débarrasser d'une maladie. Si vous avez de l'animosité contre quelqu'un, même dans votre propre famille, confessez cela. Dieu pardonnera vos iniquités et il guérira vos maladies. Il y a des années, j'ai décidé dans mon cœur de cheminer dans l'amour envers les autres, envers mes collègues, envers mes voisins, n'importe qui, sans tenir compte de ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient contre moi. Je marcherai dans l'amour, peu importe si les autres le font ou ne le font pas. Oh, bien sûr que j'ai été tenté, assurément, et chacun doit s'y attendre un jour ou l'autre. Cependant, la tentation, souvenez-vous de cela, la tentation ne constitue pas le péché. Je répète, si vous êtes tenté dans certaines choses, mais que vous ne cédez pas à la tentation, vous n'avez pas commis le péché. Nous péchons seulement quand nous succombons à la tentation. Chers amis, si vous le voulez bien, nous allons maintenant prier une courte prière et ensuite on priera pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui sont tourmentés. Cette prière, vous pouvez la faire comme si vous la faisiez vous-même. Alors prions maintenant. Père Céleste, tu es notre seul et unique Dieu. Merci que tu nous autorises de venir demander le secours de ton Fils bien-aimé. Nous te demandons, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous demandons ton aide aujourd'hui pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont besoin d'une délivrance, et que ce soit de n'importe quelle accoutumance nuisible, de les délivrer maintenant. Nous te demandons de guérir tous ceux qui sont malades, de les toucher de ta toute-puissance divine. Oui, tous ceux qui s'approchent sincèrement de toi maintenant, tu les délivres et tu les guéris, et ceci afin qu'ils puissent gagner leur vie et de ce fait beaucoup mieux te servir. Ainsi soit-il, et merci de tout cœur. Amen.